Jesus Christus.
Crise migratoire, motu proprio traditionis custodes, abus sur mineurs, synodalité, ce sont les grands thèmes qui ont été abordés ce matin par les évêques français en visite ad limina au Vatican, en compagnie du pape François. Monseigneur Denis Jachy, évêque auxiliaire de Paris, était présent. Vous l'entendrez juste après les titres. Le Hamas exclut toute participation aux municipales dans la bande de Gaza sans élection législative et présidentielle. La décision du président Abbas d'organiser un scrutin municipal en décembre prochain a provoqué stupeur et colère. On y revient dans quelques instants. Ouverture aujourd'hui à New York du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Leurs dysfonctionnements peuvent être lourds de conséquences, notamment en termes d'obésité. Illustration sur le continent africain dans notre dossier en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Hélène Destombes.
Bonsoir, le pape François préside en ce moment même une messe en la basilique Saint-Pierre au Vatican à l'occasion de l'ouverture de l'assemblée plénière du Conseil des conférences épiscopales d'Europe qui célèbre son 50e anniversaire. Ses membres sont réunis à Rome jusqu'à dimanche. Ce matin, le Saint-Père a reçu en audience le deuxième groupe d'évêques français actuellement en visite ad limina au Vatican. Ils ont pu pendant 2h30 aborder plusieurs sujets posant de nombreuses questions au pape qui a montré une grande disponibilité. Sur le motu proprio, traditionis custodes, qui redéfinit les modalités du recours aux missels préconciliaires, sur les abus dans l'Église, sur les migrants ou encore sur la synodalité. Monseigneur Denis Jachier, évêque auxiliaire de Paris, était présent lors de cette rencontre. Il revient sur le motu proprio qui a fait beaucoup parler en France. Le pape a profité de cette occasion pour préciser ses intentions.
Je crois vraiment qu'il a essayé de nous expliquer la raison de ce motu proprio et son souci profond. Son souci profond, c'est bien évidemment l'unité de l'Église, la communion de tous. Et pour autant, on sent qu'il garde le souci des fidèles attachés à la forme ancienne et que son désir n'est pas d'arrêter brutalement les célébrations de l'ancien missel, mais de donner la possibilité aux fidèles qui y sont attachés d'être conduits. Un peu dans l'esprit d'Amoris Laetitia, hein, qui veut conduire les gens qui sont dans des situations diverses, pas seulement d'assister à des célébrations qui leur correspondent, mais d'avoir des prêtres, des aumôniers qui les aident à comprendre la foi, à vivre dans l'esprit du Concile Vatican II, etc. Vraiment, la porte est ouverte aux évêques pour mettre en œuvre. Ça, c'était très net. Il donne les principes généraux, il a expliqué pourquoi, mais tout en nous disant que c'était à nous de trouver les modalités appropriées. Ce n'est pas une approche, je dirais, formelle et disciplinaire, c'est une approche pastorale.
Monseigneur Denis Jachier, évêque auxiliaire de Paris, interrogé par Xavier Sartre. Un témoignage à retrouver à l'adresse vaticannews.vr. Aux États-Unis, la crise liée à l'expulsion de migrants haïtiens prend de plus en plus d'ampleur. L'émissaire américain en Haïti a annoncé sa démission. Il affirme dans une lettre adressée au secrétaire d'État Anthony Blinken ne pas vouloir être associé à des expulsions inhumaines de milliers de réfugiés haïtiens par les États-Unis, alors que dans le pays, les gangs armés contrôlent la vie quotidienne. Ces derniers jours, les photos montrant des gardes-frontières à cheval en train de repousser des migrants près de Del Rio, au Texas, ont suscité une vive émotion aux États-Unis. Une enquête a été ouverte. Nouveau geste d'apaisement entre les États-Unis et la France en pleine crise des sous-marins. Les ministres des Affaires étrangères américains et français se sont rencontrés ce jeudi à New York, mais les relations restent crispées. La sortie de crise prendra du temps et requiert des actes, a déclaré Jean-Yves Le Drian en s'adressant à Anthony Blinken. Il a rappelé qu'une première étape avait été franchie, évoquant l'échange hier entre le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron et l'annonce d'engagement pour établir une confiance durement éprouvée. Le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza pose des conditions à sa participation aux élections municipales palestiniennes de décembre prochain. Le mouvement islamiste réclame du président Mahmoud Abbas la tenue dans le même temps d'élections législatives et présidentielles, des scrutins prévus en mai et en juillet dernier qui avaient été annulés. Les précisions de Valérie Ferron.
L'annonce par la commission électorale de l'organisation d'un scrutin municipal en décembre prochain, après le report inédit des élections législatives et présidentielles, a été dénoncée par le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, et de ce fait a averti que les municipales ne se dérouleraient pas dans ce territoire en l'absence d'élections générales. Son porte-parole Hazen Qassem a qualifié la tenue d'un scrutin local de mépris à l'égard de la situation générale. Même discours de la part de la coalition des listes nationales indépendantes, qui a tenu une conférence de presse en simultané à Ramallah et à Gaza hier. Elle a qualifié la décision de poudre aux yeux, destinée à revêtir le président Abbas d'un habit de démocrate avant son discours dimanche devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces indépendants appellent aussi à des scrutins pour renouveler le Conseil législatif et le poste de président de l'autorité nationale ainsi que le Parlement de l'OLP, seul organe de représentation de l'ensemble du peuple palestinien. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
L'Ukraine se dote d'une loi anti-oligarque. Elle a été adoptée ce jeudi au lendemain d'une tentative d'assassinat visant un conseiller du président. Les personnes identifiées comme oligarques par le Conseil de sécurité nationale se verront notamment interdire le financement de partis politiques et la participation à la privatisation de grandes entreprises. Le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires s'est ouvert aujourd'hui à New York. Objectif de cette rencontre, transformer ces systèmes parfois dysfonctionnels en mobilisant les États et les secteurs du privé. L'un des problèmes engendrés par de mauvais systèmes alimentaires est notamment l'obésité, un phénomène mondial, et l'Afrique n'y échappe pas. L'obésité est de plus en plus présente sur le continent. Selon une étude de l'OCDE, la moitié des Ghanéens vivant en ville seraient désormais considérés comme trop gros, tout comme un tiers des personnes au Bénin, au Togo ou encore en Côte d'Ivoire. Quelles sont les causes de l'obésité sur ce continent en développement? L'analyse d'Yves-Martin Prével, épidémiologiste, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement.
Dans le monde entier, l'essentiel de l'obésité est lié aux mêmes facteurs. Et ces facteurs sont en gros de types. Il y a évidemment le type d'alimentation que l'on consomme. Le deuxième facteur, c'est celui des styles de vie, modes de vie, qui changent beaucoup et qui changent avec le temps et qui ont changé brutalement en Afrique. Alors, ce qui peut être spécifique à l'Afrique ou à d'autres pays d'ailleurs en développement, c'est la rapidité avec laquelle les modes de vie ont changé. L'urbanisation a été beaucoup plus rapide. Ça, c'est sûr. Le développement économique, parce qu'on parle toujours de pays pauvres, entre guillemets, mais il y a un développement économique quand même dans ces pays, et souvent quand même assez important. Et puis cette urbanisation donc qui change totalement le mode de vie et qui fait qu'on a beaucoup moins d'activité physique en ville que l'on en a quand on est à la campagne.
Quels sont les facteurs qui font ces différences entre la ville et la campagne ?
Quand on est agriculteur, évidemment, et qu'on a un travail agricole fatigant, évidemment, on consomme beaucoup d'énergie sur son travail, alors que quand on est un peu plus sédentaire, quand on arrive aussi dans des milieux qui sont plus pollués, et là, on va arriver sur les questions de qualité de l'alimentation, parce que la pollution influence la qualité de l'alimentation, on arrive finalement à avoir moins d'activité physique, une alimentation qui est plus disponible, qui est plus variée, donc qui devrait être de meilleure qualité, avec une plus grande variété, mais qui en fait est aussi plus variée en type d'aliments et notamment en niveau de transformation des aliments.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce point? Finalement, comme partout, les aliments sont de plus en plus transformés et c'est cela qui est notamment en cause de cette obésité?
Plus on se rapproche des milieux urbains et plus il y a des niveaux de transformation des aliments qui sont faits industriellement. Et ça génère, alors la transformation des aliments en soi industrielle, que le blé soit transformé en farine, etc., c'est bien. Mais par exemple, quand cette farine est beaucoup trop raffinée, le blé qui était plutôt des glucides lents deviennent des glucides qu'on appelle rapides, donc plus proches du sucre. On favorise un petit peu l'obésité et aussi un petit peu l'arrivée des diabètes pour plus tard.
L'obésité sur le continent africain, conséquence de systèmes alimentaires dysfonctionnels, un phénomène décrit par Yves-Martin Prével, épidémiologiste, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Interrogé par Marine Henriot, il était ce soir l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre écoute. Prochain rendez-vous demain matin à 8h30. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.